Le mantra Isis. Nous allons entrer dans les mystères égyptiens pour parler du mantra Isis. Indiscutablement, les mystères sacrés qui se trouvent dans chacune des cultures du monde nous donnent une connaissance très supérieure, une connaissance qui peut nous amener à une transformation radicale, une transformation totale. Nous devons extraire sans aucun doute des papyrus égyptiens, des pyramides, des niches, des pyramides sacrées, des codex, des monolithes sacrés, toutes ces connaissances transcendantales qui peuvent nous permettre une révolution psychologique, une révolution intégrale à l'intérieur de chacun de nous pour que nous arrêtions de souffrir. Lorsque nous étudions les Égyptiens, nous trouvons immédiatement une connaissance profonde de l'éternel principe féminin divin. Dieu comme père est sagesse, et Dieu comme mère est amour. Les deux plateaux de la balance cosmique, les deux piliers ou les deux colonnes du temple de Salomon représentent la même chose. L'éternel principe masculin divin, représentant la sévérité, et la sagesse, et l'éternel principe féminin divin, représentant la douceur et l'amour. Ces deux plateaux de la balance cosmique doivent toujours être équilibrés, et lorsque l'on approfondit la culture égyptienne, on trouve que l'éternel principe féminin divin est représenté par de nombreuses déesses, la principale étant Isis, l'épouse d'Osiris. Osiris représente notre Père qui est en secret, et Isis représente notre Mère divine. Elena Petrolina Blavatsky, auteure du livre Isis dévoilé, précisément, et de la doctrine secrète, déclare « Il existe autant de pères dans le ciel que d'êtres humains sur la terre ». Cette affirmation est quelque chose d'extraordinaire, parce que les mystères égyptiens nous disent que ces principes n'appartiennent pas au passé. Ils ne font pas partie d'une histoire, mais ils sont d'une palpitante actualité. Chacun de nous possède son propre Osiris et sa propre Isis dans son intérieur le plus profond. Ces deux déités se trouvent en nous-mêmes, dans notre intérieur le plus profond. Osiris est donc une Néferte. On appelait ainsi l'être bon, triomphant, fils de Nut, premier-né de Khéts, dieu ancien, propriétaire du souffle de vie, prince de l'Orient et de l'Occident. Une Néferte donc, ou Osiris. Il venait conquérir les peuples avec sa bonté, avec sa sagesse, avec ses connaissances, et Isis, la mère divine, a toujours représenté l'amour, la douceur, la tendresse. Nous devons appliquer donc cette connaissance dans notre vie même, et en réalité, chaque culture représente ces deux principes intérieurs de chaque être humain de manière différente, mais en fin de compte, cela représente la même chose. Lorsque nous parlons d'Isis, nous parlons de notre mère divine. Beethoven, dans sa vie exemplaire, avait justement sur sa table de travail une petite statuette d'Isis et la tradition dit qu'il y avait écrit « Isis, dont aucun mortel n'a levé le voile ». Le principe d'Isis se trouve donc dans des profondes connaissances. C'est notre mère divine intérieure, et chaque culture a enseigné ce principe éternel. Ce sont les vierges de chacune des religions. C'est Tonantzin chez les Aztèques, et Tonantzin signifie notre petite mère. Teteoina était aussi le nom que l'on donnait à la mère divine chez les Aztèques, et Teteoina signifie la mère des dieux. C'est Insoberta, Rhea, Cybèle chez les Grecs, c'est Kundalini chez les Orientaux, c'est Akabotsu dans le temple lunaire de Chichen Itza. C'est la jeune vierge Isquik du Popol Vuh. Dans chaque culture donc, nous allons trouver un nom se référant à ce principe éternel divin. Mais ce qui est intéressant, ou tout du moins dans le cercle ésotérique qui a trait aux religions, il faut comprendre que chacun de nous possède sa propre mère divine, son propre père individuel. Elle est présente dans chacune de nos pensées, dans chacun de nos sentiments et dans chacun de nos agissements, essayant de nous aider, essayant de nous protéger, essayant de collaborer avec nous dans notre travail intérieur. Mais, lamentablement, nous sommes très loin d'elle, et à cause de nos actes, nous nous éloignons de ce principe éternel. À chaque fois que nous nous identifions avec la luxure, avec la pornographie, avec l'adultère, qui sont des choses contraires à ce que notre mère divine représente, à chaque fois, et à cause de cela, nous nous éloignons de notre mère divine intérieure, de notre mère particulière. Il est écrit dans de très anciennes annales que le fils fidèle est celui qui suit sa mère. Il marche sur le chemin correct. Mais le fils infidèle, celui qui oublie sa mère, tombe dans l'erreur. Il se trompe. Nous ne devons pas oublier notre mère divine. Notre mère divine est celle qui a le pouvoir de détruire nos défauts de type psychologique s'ils sont compris au préalable. C'est pour cette raison qu'on la voit représentée munie d'une lance, on la voit piétinant une lune dans les différentes anciennes églises, on la voit avec une épée décapitant des êtres monstrueux, et ceci dans les différentes cultures. Cela veut bien dire que c'est elle qui a le pouvoir d'annihiler, de détruire nos éléments psychologiques indésirables qui sont au préalable compris. Elle ne peut détruire ce que nous n'avons pas compris au préalable. Notre travail consiste à comprendre nos défauts et celui de notre mère divine intérieure particulière et de les désintégrer. Le nom qu'on peut lui donner n'a aucune importance. Si l'on aime la culture égyptienne, on peut l'appeler Isis. Si on apprécie la culture orientale, eh bien on peut l'appeler aussi Kundalini. Mais dans tous les cas, et peu importe le nom qu'on lui donne, il faut l'appeler de tout son cœur, comme si nous appelions notre mère physique lorsque nous étions enfants. On avait froid, on pleurait. On avait faim, on pleurait. Et notre mère physique venait à nous pour nous couvrir, pour nous donner à manger, etc., etc. Voilà la meilleure façon de prier notre mère divine. Faisons comme quand nous étions enfants. Concentrons-nous sur elle. Ce qui vient du cœur avec un véritable sentiment l'atteint. Et elle accourt vers nous pour nous secourir, pour nous aider, pour tout ce que nous nous proposons, pour bien faire le travail qui doit être fait pour nous auto-réaliser. Elle est toujours prête pour ce travail. Comme nous le disions à propos de Beethoven, qui a écrit au pied de la statuette d'Isis, celle dont personne n'a levé le voile, c'est quelque chose de très intéressant, car ce voile, le voile d'Isis, représente, lorsqu'il se déchire, le pouvoir de voir les différentes dimensions de la nature et du cosmos. Lorsque l'on déchire le voile d'Isis, lorsqu'on enlève ce voile, alors on peut voir de nos yeux toutes les dimensions de la nature et du cosmos. Lorsqu'on déchire le voile d'Isis, on peut voir alors tous les élémentaux de la nature ou les créatures innocentes qui ont leur corps physique dans les plantes, dans les animaux, dans les pierres. On peut voir l'aura des personnes. C'est pour cette raison que le mantra Isis, qui est le nom de notre mère divine, le nom de Devi Kundalini Shakti, notre serpent igné de nos pouvoirs magiques, nous accorde l'authentique clairvoyance. Nous ne parlons pas de la clairvoyance subjective, subconsciente, inconsciente ou infraconsciente, non. Nous ne sommes pas en train de parler de ce genre de clairvoyance, de cette clairvoyance que prêchent généralement les médiums, les spiritistes ou n'importe qui d'autre qui prétendent avoir cette faculté, non. Nous ne sommes pas en train de parler de cela. Nous ne parlons pas non plus de ces personnes qui, d'une façon inconsciente, arrivent à voir des fantômes, des ombres ou d'autres choses de ce genre, car c'est une clairvoyance subjective qui ne nous intéresse pas parce qu'elle est de type négatif et ne nous sert à rien, à part nous compliquer la vie. Nous parlons de l'authentique clairvoyance consciente, positive, celle que l'on peut avoir lorsqu'on le veut voir et ne pas voir lorsqu'on ne veut pas voir. La clairvoyance subjective inconsciente est incontrôlable, fait que nous voyons lorsque nous ne voulons pas voir, et nous ne voyons pas lorsque nous voulons voir. Elle ne sert à rien. Elle est sujette aux différents défauts, de type psychologique, et complique la vie de celui qui la développe. C'est une clairvoyance négative. La clairvoyance positive est celle que nous recherchons ici dans la gnose. C'est une clairvoyance qui se développe et qui exige en premier lieu la dissolution de nos éléments psychologiques indésirables et principalement celui de la colère, et la colère dans toutes ses facettes. La haine, la violence, l'intolérance, l'impatience sont des défauts qui abîment le chakra ou le centre magnétique qui est en relation avec la clairvoyance. Ce chakra de l'entre-sourcil, l'Obsankampa en parle, comme le troisième œil. Ce troisième œil est le chakra de la clairvoyance qui s'active si seulement nous détruisons chacun des défauts psychologiques de la colère. Tant que nous continuons à être coléreux, de mauvaise humeur, intolérants, remplis d'amertume, notre clairvoyance ne va pas pouvoir se développer. Malgré tous les efforts que nous pourrons faire, notre clairvoyance ne va pas être possible. Elle ne va pas pouvoir se développer si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes. Une autre exigence pour le développement de cette clairvoyance positive est de ne jamais parler de ce que l'on voit. Si on parle de ce que l'on voit, notre clairvoyance devient négative. On doit faire preuve d'une totale discrétion. Il faut aussi éliminer ces moi indiscrets. Nous n'avons pas à nous mêler de la vie d'autrui, en aucune façon, parce qu'alors, notre clairvoyance ne se développera pas. Il y a un dicton qui dit « Celui qui parle ne sait pas, et celui qui sait ne parle pas ». Cet axiome s'applique ici. Celui qui est un véritable clairvoyant authentique ne le dit pas, et celui qui déclare l'être, eh bien, n'est pas un clairvoyant authentique. Ce sera un clairvoyant négatif, et non positif. Les clairvoyants négatifs ont rempli le monde de problèmes, de divorces, de douleurs et de toutes ces choses si négatives qui apparaissent dans le code pénal. Cela ne nous intéresse pas. Avec le mantra Isis, on travaille en partie sur la mort de l'ego de la colère. On travaille pour le développement de cette clairvoyance positive. En combien de temps va-t-elle se développer? Peut-être dans des dizaines d'années, peut-être après toute une vie de travail. Ce n'est seulement qu'ainsi que l'on peut obtenir des résultats. Il n'y a pas de résultat rapide pour la clairvoyance positive. Il faut un travail acharné, il faut travailler maintes et maintes fois, jusqu'à ce que cette faculté se développe de façon positive et graduelle. Rien n'est facile pour obtenir ces facultés. Ce n'est pas comme si nous prenions un remède et puis tout va mieux. Ou que l'on se faisait une piqûre ou que nous ingérions une plante. Non, mes amis. Nous ne parlons pas de tout cela. Il faut un travail intense et positif pour pouvoir développer cette clairvoyance. Bon. Bien, nous allons faire cette pratique. Elle est très simple. Il faut simplement se relaxer et faire le mantra, concentré sur notre Mère divine, en demandant, en suppliant, pour le développement positif de cette faculté merveilleuse. Faisons donc cet exercice. Plaçons-nous dans une position confortable. Fermons les yeux et relaxons notre corps. Avec beaucoup de patience. Relaxons toutes les parties de notre organisme. Relaxons nos pieds. Laissons de côté toutes nos anxiétés, nos désirs, nos envies, nos souvenirs, nos conflits. Relaxons notre corps en laissant tout cela de côté. Relaxons nos chevilles. Nos jambes. Nos genoux. Nos cuisses. Relaxons nos fesses. Nos organes créateurs. Notre taille. Avec beaucoup de patience, relaxons chaque partie de notre corps. Endormons-nous délicieusement dans cette relaxation. Relaxons le ventre. La poitrine. Le dos. Notre cœur. Relaxons nos épaules. Nos bras. Et nos mains. Notre personnalité doit être passive pendant cet exercice. Quand nous parlons de notre personnalité, nous voulons parler des choses de notre travail, de notre famille, des amis, des études. Maintenant, en cet instant, il faut laisser tout cela de côté. Et avec la relaxation, tout cela doit devenir passif. Notre personnalité doit être passive. Mais en même temps, il faut être en souvenir de soi. Relaxons notre cou. Et la nuque, le souvenir de soi, c'est vivre chaque instant, chaque moment, chaque seconde. C'est être ici et maintenant, sans que notre conscience s'échappe dans d'autres lieux ou dans d'autres instants. Nous devons nous trouver ici. Relaxons notre cuir chevelu. Notre front. Nos oreilles. Nos yeux. Notre nez, nos joues, la bouche, les lèvres, la langue, le menton. Relaxons toute notre tête. Maintenant, nous nous concentrons sur notre mère divine, et chacun de nous a la sienne propre. Elle n'a pas de forme, mais c'est la base de toutes les formes. Nous la supplions, nous implorons son assistance, son aide dans cette pratique. Et concentrés sur notre mère, nous l'appelons avec le mantra Isis. Soyons simplement concentrés sur notre mère divine, profitant de ces moments de tranquillité, de paix, en cherchant à entrer en contact avec notre cœur, avec notre mère divine, c'est tout. On ne recherche rien à voir. On ne recherche pas à avoir une expérience surprenante ou à ressentir de la chaleur ou de l'énergie. L'unique chose que l'on recherche, c'est un moment de recueillement spirituel, concentré dans l'éternel principe féminin divin. Continuons avec le mantra.
Is. 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 Is.
Concentrés sur notre Mère divine, nous la supplions, nous la prions, en lui demandant de l'aide, de la protection, de l'illumination et le développement de cette faculté merveilleuse qui nous permet de voir l'ultra de la nature. Remercions notre Mère divine de l'aide qu'elle nous a apportée de tout notre cœur et que ses paroles sortent de notre cœur, sincèrement. Bien, nous avons fini notre exercice d'aujourd'hui. Nous pouvons ouvrir les yeux et bouger notre corps. C'était notre pratique de ce soir avec le mantra Isis. Nous vous donnons la bibliographie pour ce sujet. Nous vous suggérons d'étudier la conférence sur le pouvoir des mantras par le maître Samael Aounveor sur notre site www.samaelgnosis.net. Dans la section des conférences pour approfondir ce mantra si merveilleux que nous avons étudié aujourd'hui. Vous pouvez également lire le chapitre de la Kundalini dans le livre La Grande Rébellion pour comprendre un peu mieux ce principe féminin divin intérieur que nous possédons tous et qui essaye de toujours nous aider. Institut culturel Quetzalcoatl.